Merci pour ce témoignage. Merci pour l'homme et la femme de prière que vous êtes, Thierry et Daniel. On est très reconnaissants de ce que Dieu fait. Et j'ai découvert que Daniel avait du sang italien. Mais le plus merveilleux, c'est de connaître Dieu, d'avoir cette identité en Dieu, qu'on soit italien, suisse ou je ne sais, c'est de découvrir ce Dieu, comme l'a dit Thierry, connaître Dieu par la prière. Et en fait, en s'approchant de Dieu, en connaissant Dieu, on découvre qui on est aussi. Et alors que je préparais ce message sur le thème de la prière communautaire, à prière ensemble, j'ai reçu un témoignage qui m'a vraiment encouragé, un témoignage qui vient de l'autre bout du monde. Et ça, c'est la chance qu'on a aujourd'hui en 2025, c'est d'avoir plus besoin de courrier comme mes parents qui étaient missionnaires, qui devaient prendre le bateau. Au début, ils sont allés en Afrique. Aujourd'hui, on a cette chance d'avoir le WhatsApp et on peut communiquer à l'autre bout du monde. Alors voilà ce que j'ai reçu comme message alors que je me préparais pour ce matin. J'étais en pleine préparation, c'est donc Koupra, pour ceux qui se souviennent, qui est au Niger, à Agadez, qui est pasteur là-bas et qui m'a envoyé ça. Je me réjouis de t'encourager par une expérience vécue samedi dernier lors d'une soirée de louange et lors du culte du dimanche 2 novembre 2025. Cela fait environ 5 mois, nous sommes dans le 6e mois, où nous prions chaque jour en église, conduit par le Seigneur, de 5h à 7h du matin, et de 16h à 18h, 7 jours sur 7. On est encore un peu loin, hein, à Lazare. Pendant ces moments, nous prenons le temps de préparer le culte semaine après semaine. Ces derniers temps, nous vivons des moments très forts avec le Seigneur. Les personnes sont guéries, baptisées du Saint-Esprit, délivrées. Pendant qu'elles dirigeaient la louange, grâce à notre fille aînée, a vécu une expérience céleste. Elle s'est assise et c'est par la suite qu'elle nous raconte ce qui lui est arrivé. Son âme est partie au ciel. Son corps et son esprit sont restés là. Elle entend la même louange que nous faisons ici-bas, le même chant que nous chantons ici, se chantait devant le trône de Dieu. Tout à coup, durant cette visite, elle voit au loin le Seigneur assis sur le trône et les personnes sont devant lui et l'adorent. Pendant ce temps où nous adorons Jésus, un frère a demandé qu'on reste un moment dans le silence. Et là, une sœur s'est mise à parler en langue. Grâce à interpréter ce parler en langue, d'une telle manière, d'une telle douceur, d'une telle beauté, que je n'ai même pas retenu le message. Je suis tellement surpris. Nous sommes tous émerveillés par la douceur et la beauté de l'interprétation. Vraiment, nous expérimentons la main de Dieu. Depuis que nous prenons ce temps, matin et soir, dans sa présence, nous vivons des délivrances. Les gens sont convaincus de péchés, des péchés même plus intimes, des péchés sexuels, et ils viennent me voir après le culte. Le Seigneur parle aussi et appelle des personnes au ministère. Il interpelle beaucoup de personnes sur les péchés, surtout les péchés cachés. Ce sont des événements que nous sommes en train de vivre et nous rendons d'excellentes actions de grâce à Dieu. Nous persévérons dans la prière, l'adoration et la louange afin que le Seigneur continue à se manifester parmi son peuple. Que ces témoignages t'encouragent, te fortifient dans ta marche avec Jésus. De tout cœur, Koupra. Merci Seigneur. Alléluia. Quel encouragement. Quel encouragement. Et j'aimerais juste vous donner, on peut lancer le PowerPoint, quelques mots sur la prière communautaire. Il faut savoir que la prière communautaire était pratiquée par l'Église primitive. Et l'Église primitive, c'est notre modèle. Vous êtes d'accord? C'est notre modèle. C'est le seul modèle que nous voulons garder. Et le livre des Actes décrit la première histoire du christianisme et décrit cette Église émergente, cette Église première, primitive. Et c'est pour ça que c'est important qu'on plonge ce matin nos regards aussi dans ce livre. J'aimerais juste dire quelques mots de contexte avant de parler plus profondément de ce livre des Actes et des passages qui nous parlent de la prière en communauté, donc ensemble. Dans le judaïsme, la prière était très encadrée. Il y avait trois moments de prière dans la journée, le matin, le midi et le soir. Il y avait différents moments dans la journée plutôt. Il y avait beaucoup de prières qui étaient liées aussi au sacrifice. C'était pas mal codifié avec le temple. Et il faut se rappeler que les premiers disciples de Jésus vivaient dans ce contexte du judaïsme et dans aussi quelque part ce formalisme et ces traditions. Certaines étaient bonnes et il y avait aussi un formalisme religieux. Mais lorsque Pentecôte est arrivé, lorsque le Saint-Esprit est venu, la présence de Dieu n'était plus au temple, mais en chaque croyant. Et le Saint-Esprit a commencé à remplir l'Église d'une façon nouvelle. Et c'était ce nouveau temple que Dieu construisait par son Esprit, c'était l'Église. Et il faut s'imaginer que l'Église est préfigurée. Il y a plein d'enseignements dans l'Ancien Testament qui annoncent le projet de Dieu, que ce que Dieu voulait faire. Parce que Dieu, en fait, il a d'abord commencé à appeler un peuple, Israël. Et il a appelé premièrement un homme, Abraham, à le suivre, à marcher avec lui. Et cet homme est devenu une famille. Cette famille est devenue un peuple nombreux. Et Dieu a envoyé Moïse pour libérer ce peuple des griffes du Pharaon et pour le convoquer, pour amener ce peuple dans le Sinaï, pour faire alliance avec lui. Donc le mont Sinaï, c'est ce lieu où Dieu est descendu et a fait alliance avec ce peuple qu'il avait appelé hors d'Égypte. Et c'est intéressant de réaliser cela, c'est que ce peuple a été libéré de la puissance du Pharaon. Et il a été convoqué par Dieu parce que Dieu voulait être au milieu de son peuple. Et ce qui s'est passé au Sinaï, c'est que Dieu est descendu sur la montagne. Imaginez, il y avait le feu, il y avait le tonnerre, il y avait les tremblements, ce qu'on appelle des actes théophaniques de Dieu, c'est-à-dire Dieu qui se manifeste. Et Dieu était là, au milieu de ce peuple, qui a même eu peur à un moment donné. Et voilà qu'il y avait tout cela qui se passait. Et en fait, ce moment, Dieu l'a appelé le rassemblement, c'est une convocation. Et il y a un terme en hébreu qui dit ça, c'est « ka'al », c'est le rassemblement. Et chaque fois que le peuple se rassemblait autour de Dieu, c'était le « ka'al » de Dieu, le « ka'al » de Yahvé. Et ça, dans l'Ancien Testament, en fait, ce mot « ka'al », ça représente quoi ? Rassemblement. Et ça a été traduit par les traducteurs de l'Ancien Testament. Vous ne savez peut-être pas, mais l'Ancien Testament est écrit en hébreu, a été traduit en grec au 3e siècle avant la venue de Jésus-Christ. Donc, il a été traduit en grec par le mot « ecclésia », qui a donné « église ». Donc, le peuple de Dieu qui se rassemble autour de Dieu au mont Sinaï, c'est l'ecclésia de Dieu. Et voilà que cette ecclésia, ce Kaal de Yahvé, c'est Dieu au milieu de son peuple. Qu'est-ce qui se passe dans le livre des Actes ? Quand la présence de Dieu descend à Pentecôte et dans différents moments au début de l'Église naissante, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que Luc note pour montrer que Dieu fait quelque chose de nouveau ? Qu'est-ce qui se passe dans Pentecôte ? Il y a des actes théophaniques de Dieu. Il y a le grand bruit. Il y a le feu qui est là sur la tête de chaque disciple. Et on voit même un autre moment de rassemblement au chapitre 4 et au verset 31. C'est dit « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. » Voilà ce qui se passe. Luc nous montre que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Ce peuple, Dieu l'appelle, pas de l'Égypte, mais de ce monde où le prince de ce monde, le Pharaon, est en train de nous rendre esclaves et nous faire souffrir. Et Dieu convoque son peuple, veut qu'on se rassemble communautairement autour de lui pour agir avec puissance. Et la prière individuelle, c'est important, mais la prière communautaire est tellement plus importante. Et je vais développer cette idée. Autre chose par rapport à le mot « église »,« ecclésia » en grec. Le mot « ecclésia », en fait, peut être aussi formé à un autre sens. Je vous ai donné le premier sens, qui est une traduction du mot « ka'al ». Mais il a un autre sens, « ecclésia », c'est l'idée que c'est un mot en deux parties. « Ec », c'est « hors de », et « kaleo », c'est « appelé ». En fait, Qu'est-ce que Dieu a fait quand il a envoyé Moïse, qui est une préfiguration de Jésus-Christ ? Jésus, c'est l'envoyé de Dieu. Il a envoyé Moïse pour sortir, pour appeler hors d'Égypte un peuple. Et nous tous qui sommes ici, Jésus nous a rencontrés et nous a appelés hors de où nous étions, hors de notre culture, hors de tout âge, de toute culture, pour constituer son peuple, l'Église. Et c'est ce que nous sommes. Alléluia ! C'est merveilleux de faire ce parallèle, finalement, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et jusqu'à maintenant, Dieu avait cantonné sa présence au temple. Et déjà, sur le mont Sinaï, il y avait un petit temple transportable qui s'appelait le tabernacle. Et en fait, sur la montagne, alors que le peuple est rassemblé, Dieu donne à Moïse les plans pour le tabernacle. Ça vient directement du ciel. Et voilà que ce tabernacle, maintenant, il est fait, et voilà qu'il se déplace avec le peuple de Dieu. Parce qu'à partir du mont Sinaï, Dieu est au milieu de son peuple. Dieu est avec son peuple. Et il ne va plus le quitter. Et voilà que ce tabernacle se déplace dans le désert. Et voilà qu'il avance. Et à un moment donné, le peuple se fixe. Le peuple entre dans le pays promis. Alléluia. Et voilà que maintenant, ils sont posés. Et ils ont des frontières, ils ont un pays. Alors, le tabernacle devient le temple. Et c'est le signe, le temple, que Dieu est au milieu de son peuple. C'est le signe. Et c'est bien sûr lié à un moment précis. Et voilà que il y a des fêtes, on monte au temple 3 fois par année, tout le peuple d'Israël, c'est vraiment le centre de la vie culturelle du peuple de Dieu. Mais un jour, un homme vient. Il n'est pas comme les autres. Un rabbin, pas comme les autres. Et qu'est-ce qu'il va dire ? Il va dire, détruisez ce temple et en 3 jours, je le reconstruirai. Impossible humainement de reconstruire un temple en 3 jours. Décalage avec ceux qui l'écoutent. Tu dis, mais il a fallu 46 ans pour faire ces modifications. Il a fallu des... C'est pas possible. Et Jésus dit, détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le reconstruirai. Mais cet homme, c'était Dieu qui visitait son peuple. Amen. Dieu fait homme qui visite son peuple. Et voilà que c'est la présence de Dieu maintenant en une personne qui se déplace. Voilà qu'il n'y a plus unité de lieu, c'est plus un seul lieu, c'est une personne. Et voilà que cet homme, Jésus de Nazareth, est mort et ressuscité et maintenant donne son esprit à l'Église. Et les Actes des Apôtres racontent cela, cette transmission depuis les Évangiles à l'Église. Parce que les Actes des Apôtres sont appelés parfois les Actes du Saint-Esprit. Parce que c'est l'Esprit qui ajoute, c'est l'Esprit qui conduit les apôtres, c'est l'Esprit qui bâtit cette nouvelle construction spirituelle que l'Église. Ce n'est plus un bâtiment, ce n'est plus un temple, ce n'est plus un lieu. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit son peuple. Ce n'est même plus un État, ce n'est plus une culture juive, aussi divine qu'elle est comme origine. C'est l'Esprit de Dieu qui conduit son Église. Et dans l'Église primitive, les chrétiens se réunissaient régulièrement pour chercher la face de Dieu. Chaque fois qu'ils se réunissaient, Dieu se manifestait au milieu d'eux. Amen. C'est ça la dispensation de l'Église. Et vous savez ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Église depuis 2000 ans ? Eh bien, il y a eu un mouvement qui s'est passé, qui a éteint ce mouvement de l'esprit et cette construction. Les responsables religieux ont commencé à éteindre ce mouvement de prière, ont commencé à priver le peuple de la parole de Dieu. Et au IVe siècle, l'Église est devenue Église d'État. On est entré dans l'ère de la chrétienté. Et le sacerdoce universel, où Dieu est au milieu de son peuple, et a été donné à une caste, à une minorité qui a commencé à contrôler tout ça. Et l'Esprit de Dieu ne pouvait plus se mouvoir dans l'Église comme il le voulait. C'est-à-dire que Jésus est la tête, nous sommes son corps, et le corps n'était plus irrigué comme il le voulait. Mais gloire à Dieu, Dieu n'a pas dit son dernier mot, amen. Dieu est plus fort que les plans des hommes et que le plan surtout de l'ennemi qui inspire les hommes. Mais voilà que Dieu a agi. Il y a eu des réveils et des réveils dans toute l'histoire de l'Église. Des réveils puissants de la main de Dieu qui reprend le contrôle sur son Église et sur son corps. Et il y en a eu bien des mouvements, bien des mouvements. On pourrait passer des heures à parler de ça, tellement c'est extraordinaire comment Dieu a fait. Et il y en a un que vous connaissez bien, un de ces mouvements de réveil, qui est la réforme. Vous savez que la réforme, c'était un moment clé de l'histoire de l'Église où on a redonné la Bible au peuple de Dieu. On a traduit la Bible dans la langue pour que les gens la comprennent. Parce qu'il y avait la traduction de Vulgate depuis le 4e siècle qui était en latin. Et la plupart ne savaient pas lire et écrire. On a redonné l'accès à la parole de Dieu au peuple. Et on a remis le sacerdoce universel, c'est-à-dire vraiment cette capacité où on est tous appelés, on a tous reçu l'Esprit de Dieu, à de nouveau fonctionner. Entendez-moi bien, mes amis, hein, je ne suis pas en train de dire que les responsables ou les autorités n'ont pas leur place dans l'Église, hein, c'est que l'Esprit de Dieu. Mais je crois vraiment qu'il y a besoin, bien sûr, des deux, mais il y a besoin vraiment que Dieu s'exprime, Dieu soit au milieu de son peuple. Et il y a eu des grands mouvements missionnaires dans le 18e, 20e, 19e siècle. Il y a aussi le mouvement pentecôtiste au 20e siècle, qui ont été des mouvements de réveil. Donc Dieu a fait une grande œuvre. Et on voit que dans tous les réveils de l'histoire, chaque fois qu'il y a un mouvement où Dieu reprend le contrôle de son Église, la prière communautaire est revenue au milieu de son peuple. Amen. La prière communautaire est redonnée et réanimée dans son Église. Dieu est à nouveau au milieu de son peuple pleinement. L'action de l'Esprit agit comme il le faisait dans l'Église primitive. Dans le livre des Actes, on voit qu'il y a pas mal de prières individuelles. Il y en a quand même, hein. On voit Pierre qui se retire pour prier. On voit que Jésus priait aussi, prenait des heures tout seul. Elle est très importante, mais nous voyons beaucoup de passages, de descriptions, de prières communautaires. J'aimerais vous en lire quelques-uns ce matin avec vous, rapidement. Des textes que vous connaissez sans doute. Le premier, tous d'un commun accord, au chapitre 1 des livres des Actes, persévéraient dans la prière avec les femmes, avec Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. On voit déjà quelque chose de nouveau hein, dans cette communauté messianique. Hein. On voit que même les femmes prient, ce qui n'était pas le cas à la synagogue et à l'époque. On voit qu'il y a des choses nouvelles qui se passent avec l'Esprit de Dieu. On voit qu'au au chapitre 2 et au verset 1, un peu plus loin, lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tous ensemble, pas des petits groupes, tous ensemble dans un même lieu. On voit que, 2.46, chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple d'un commun accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse et simplicité de cœur. Chaque jour, ils étaient au temple. Vous voyez, hein, le culte une fois par semaine, c'est rien. Là, c'était tous les jours. Vous avez de la chance, hein, à Lazare. Voilà, après, il faut comprendre que c'était aussi un mouvement de réveil. Hein. Quand il y a le mouvement de réveil, je peux vous assurer que tout le monde est à l'église tous les jours. L'Esprit de Dieu travaille tellement. Mais voilà, c'était aussi une saison particulière de l'histoire de l'Église. Hein. Mais voilà, il y avait ce mouvement et cette action de Dieu. Au verset chapitre 3 et au verset 1, « Ensemble, Pierre et Jean montaient au temple à l'heure de la prière. » Ensemble. On y reviendra. Et c'est vrai que la 9e heure, c'était 15 heures, sauf erreur. On voit que Pierre et Jean, c'est deux générations différentes. Je n'ai pas le temps de développer, mais c'est aussi l'intergénération dans la prière. Et on voit que juste après ça, quand ils montent pour prier, qu'est-ce qui se passe? Il y a un miracle. Il y a le fameux boiteux qui est guéri au temple, vous savez, à l'entrée du temple. Et je ne sais pas si vous réalisez que ce n'était pas l'entrée du temple, mais c'est dans le parvis intérieur, ce qu'on appelle le portique de Salomon. Et c'est là qu'ils se réunissaient, l'église primitive, pour prier et il se passait des choses. Et pour vous montrer une image de ce que c'est le temple, voici le portique de Salomon. Donc c'était sur cette aile, donc il faut imaginer qu'il y a des gens partout. Et l'église primitive, ils se réunissaient là, ils avaient leur endroit dans le temple. voyez, ils se réunissaient pour prier, pour chercher la face de Dieu, et il se passait des choses. Et il se passait des signes et des prodiges. Donc, imaginez, l'Église, elle n'était pas entre ces quatre murs-là. Elle était au milieu des Juifs de l'époque qui ne reconnaissaient pas Jésus comme le Messie. C'était, ils priaient dans la rue, si vous préférez. Ils priaient auprès de tous ces Juifs qui étaient là et qui ne connaissaient pas Jésus. Donc forcément, il y avait des miracles aussi. Parce qu'il y a des gens qui accouraient quand il était guéri, ce boiteux, tout le monde est venu. Et bien sûr, ça n'a pas plu aux chefs religieux, hein, à un moment donné. Mais vous imaginez que c'est un contexte d'évangélisation. Vous voulez voir Dieu agir, la puissance de Dieu ? Soyez au contact des non-chrétiens. Sortez dans la rue. Témoignez, priez sur vos lieux de travail. Priez en groupe. Vivez l'évangile, pas juste entre nous. On veut vivre les miracles pour nous. Mais les miracles sont pour toucher les non-croyants. Donc voilà où l'Église se réunissait pour prier. D'autres passages où on voit que lorsqu'ils l'eurent entendu, d'un commun accord, ils élevèrent leur voix vers Dieu. On voit qu'ensemble, ils prient ensemble, ils élèvent leur voix. C'est suite à ce que le Sanhédrin veut les faire taire après cette guérison. Et on voit encore un peu plus loin, quand ils eurent prié, au verset 31-32, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. J'aimerais relever une chose importante ce matin. C'est qu'est-ce que produit la prière communautaire quand on est ensemble et qu'on vient chercher Dieu ensemble. Vous savez ce que ça produit ? On a plein de théories, mais ce que nous dit ces textes, ça produit une chose, l'unité de cœur. Ça produit un miracle. Vous savez, aujourd'hui, il y a un miracle. Moi, je regardais une émission dernièrement, les histoires entre voisins. C'est un truc incroyable. Il y a des gens, ils sont fâchés de génération en génération, parce que ça commence avec le grand-père. Ils se tirent dans les pattes. Ils ne s'aiment pas. Il y a de la colère. C'est terrible quand on regarde ça. Vous savez, des fois, on n'est pas très loin, nous, les chrétiens aussi. Mais ce que Dieu fait, ce que Dieu peut faire, c'est changer notre cœur et nous mettre ensemble. Ça, c'est la puissance de Dieu. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut changer nos pensées, nos cœurs, les uns vers les autres, et nous unir. Et le fruit, le miracle de cette Église, c'était pas d'abord les miracles, les signes et les prodiges. C'était le premier fruit de la prière communautaire, c'était une unité de cœur. Amen. Et je vais vous le prouver. Il y a ce « tous d'un commun accord » qui revient. Vous savez ce que ça, littéralement, ça, comment on dit ça en grec ? On dit ça, « homo tu donnes sauf erreur ». C'est l'idée que les cœurs sont unis, d'un seul cœur. Vous savez que le cœur, dans le sens biblique, c'est pas seulement les émotions, c'est aussi la volonté. Ça veut dire une seule volonté, une seule façon de penser, une unité dans ce qu'on pense. Il n'y a pas 10 000 théories. On est unis. Il y a une unité de cœur, une unité de décision, une unité de direction, une unité d'âme aussi. Et on voit vraiment que ça revient comme un leitmotiv d'un commun accord, d'un même cœur uni, d'un même cœur. Si nous voulons vivre l'Église comme il se doit, il n'y a pas 36 chemins pour y arriver. Ce n'est pas en étant le plus démocratique possible. On est dans un pays le plus démocratique au monde. La démocratie directe, c'est super, c'est des super outils. Tout le monde peut être entendu, mais on ne vivra pas l'Église sur ce modèle-là. Un autre extrême, c'est de vivre l'Église sur le modèle de la dictature. On nomme des responsables, paf, on va faire avancer les choses, bam, bam, bam. La dictature, vous savez bien que ça ne marche pas aussi. Ce qui peut vraiment unir l'Église, c'est l'Esprit de Dieu que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Amen. C'est ça qui peut unir l'Église. Si nous le cherchons ensemble. Si nous le cherchons ensemble. C'est pas acquis, hein. C'est pas acquis. Il y a un travail à faire. Il y a l'Esprit qui doit agir dans nos vies. Et quand nous allons avancer, nous approcher de Dieu, sincèrement, alors il y aura une telle unité. Vous savez ce qui va se passer ? Il n'y aura plus besoin d'Assemblée Générale. Je bénis ce jour, plus besoin d'Assemblée Générale. Dieu sera tellement au milieu de nous, ce sera merveilleux. Il n'y aura plus de comité, il n'y aura plus de projet, de planification. On ne cherchera pas à créer une unité par le projet, par l'intentionnalité. Alors bien sûr qu'il y aura des projets, bien sûr qu'il y aura une structure. Et la structure, c'est hyper important dans une église. Donc, mais il y aura vraiment un mouvement de l'esprit, parce que c'est Dieu au milieu de son peuple qui conduit l'église. Alors nous en sommes encore loin. Nous en sommes encore loin, mais le modèle est là. Amen. Dieu ne nous a pas laissé orphelins. Il nous a laissé sa parole et il nous a laissé son esprit pour que nous puissions travailler dans cette direction-là. Alors, quelques petits conseils où j'aimerais dénoncer quelques obstacles à la prière communautaire. Vraiment, juste rapidement, je ne vais pas trop les développer, il y en aurait d'autres aussi. Comme disent les jeunes, c'est quelques petits tips pour la prière communautaire. Quelques petits tips. Alors voilà, donc le premier tips. Donc, pas de prière communautaire si on ne vit pas la prière personnellement. Il faut commencer par le début. Si vous n'avez pas une vie de prière personnelle, bah, ne venez pas aux prières communautaires. D'abord, développez la prière personnelle. Rien ne peut remplacer le face-à-face journalier avec Dieu. Amen. Rien. Pas la communauté. Il y a des gens qui vivent de la prière communautaire, mais ne vivent rien à la maison. Ne vivent rien dans leur vie personnelle. Ce n'est pas possible. C'est le premier pas. Beaucoup parlent de prière, mais peu la pratiquent régulièrement avec le désir d'aller toujours plus loin dans la communion avec Dieu. Première chose. Deuxième chose, j'ai pris un exemple. C'est quoi ? Non, ce n'est pas un livre, Josie. Ouais. Voilà, il y en a qui disent. C'est un agenda, c'est 2026. Voilà. Ça, ça fait la guerre à la prière communautaire. Ça, toutes les sollicitations qu'on a, tout ce qu'on remplit là-dedans, toute la place que ça prend, trop de choix, trop de sollicitations, trop de divertissement. Ça, c'est un obstacle majeur. Il faut être dans un même lieu, hein, tous ensemble. Bonjour pour être tous ensemble dans un lieu, même lieu. Hein. Bonjour. C'est un défi permanent. C'est l'agenda. Deuxième défi pour la prière communautaire. Le téléphone. Le téléphone. Les réseaux sociaux. Trop de choix, trop de prédications en ligne, trop de conseils, trop d'envois. On n'en peut plus, on sature d'informations. L'information n'apporte pas la transformation. L'information nous sature et sature la voix de Dieu en nous, que Dieu veut nous parler. Les trois terrains, la parabole des terrains, voilà quelque chose qui nous empêche d'entrer dans la prière communautaire. Le premier, c'est le chemin. Le chemin, c'est le terrain dur et piétiné. Rien ne pénètre, aucune racine, aucun effet. Il n'y a plus de vie dans le cœur, il n'y a plus de vie dans nos vies de prière. Nos prières sont dures, mécaniques, imperméables à la vie de l'esprit. Ça peut être parce qu'il y a besoin d'une repentance, il y a peut-être besoin d'un changement en profondeur. On n'arrive plus, il n'y a plus cette vie-là en nous. Deuxième terrain, vous irez lire les terrains. Jésus a donné les interprétations, donc on ne peut pas se tromper. Le terrain pierreux, c'est le sol superficiel. C'est la prière qui n'a pas de racine, c'est-à-dire elle est là et après elle n'est plus là. C'est la prière impulsive, émotionnelle, fragile. Il n'y a pas de persévérance dans cette prière-là. Troisième terrain, les ronces. Jésus mentionne trois ronces dans ce terrain-là. C'est les soucis de la vie, les séductions de la richesse, les désirs du monde. C'est des choses qui étouffent la parole de Dieu et la prière. Et la prière, elle est là, elle est vraie, elle est sincère, mais elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les priorités matérielles, l'agenda. Un obstacle de plus, l'individualisme. Je prie pour mes projets, je prie pour ce que j'ai envie de faire et je veux demander à Dieu qu'il bénisse mes projets. Je veux que Dieu bénisse mon ministère. Toutes les phrases qui disent « je pense que j'ai une ligne directe avec le Saint-Esprit », tout ça, ça c'est un obstacle à la prière communautaire parce qu'elle nous empêche de laisser Dieu parler et nous parler. C'est nous qui parlons et pas Dieu qui parle. Dieu veut être au milieu de son peuple et il ne veut pas parler qu'à toi seulement. Il veut parler à son corps, à tout le corps. Et il y a besoin en Église de passer du « je » au « nous ». Jésus enseignait la prière à ses disciples avec « nous », pas en « je ». Les mots « tous ensemble », un même lieu, d'un commun accord, sont en perte de vitesse à cause de l'individualisme. C'est les mots « j'ai une ligne directe avec Dieu », »,« moi je », »,« suivez-moi dans mon projet », »,« likez et abonnez ma chaîne YouTube » qui ont pris place. Encore une petite direction. Les extrêmes. Il y a deux extrêmes à éviter dans la prière communautaire. Le formalisme religieux et l'excitation exaltée qui n'est pas du Saint-Esprit. Premier extrême. Le formalisme et l'hypocrisie. Il y a deux choses qu'il faut vivre dans les temps de prière communautaire. C'est prier par l'Esprit et prier avec l'intelligence. Il faut les deux dans les réunions de prière. Il ne faut pas juste prier que par l'esprit et prier que par l'intelligence. Si on prie que par l'intelligence, c'est Dieu nous a donné l'intelligence, important. Ce qui risque d'arriver, c'est qu'on fait des belles prières. Des belles prières longues, publiques, et qui ouvrent la porte à l'orgueil. Je n'ai pas le temps, j'ai plein d'exemples, pas ici bien sûr, hein, dans d'autres églises, mais jamais chez nous. Mais c'est vrai que la porte que ça ouvre aussi, ça ouvre la porte au rationalisme. En fait, il y a des belles prières bien construites, mais il n'y a plus la vie de Dieu en nous. C'est l'esprit religieux, comme les pharisiens qui priaient pour être vus. À l'inverse, on peut avoir une ferveur incroyable où tout le monde prie et où il y a vraiment cette vie et cette prière par l'esprit. Mais Paul, à un moment donné, va recadrer l'église de Corinthe. Voilà ce qu'il va leur dire, parce que, excusez-moi, c'était un petit peu le bazar. 1 Corinthiens 14, verset 40, que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. 1 Corinthiens 14, verset 15 à 16, je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis. Un équilibre dans les rencontres de prière communautaire entre la vie de l'esprit, la prière par l'esprit, prière en langue, et la prière intelligente. La prière avec notre intelligence. C'est pour ça que nous avons besoin de gens qui soient sensibles à l'esprit, qui conduisent nos temps de prière communautaire. Parce que le mouvement de l'esprit est là et il y a besoin de le discerner. C'est des fois en filigrane dans nos rencontres. Et il y a besoin de tendre l'oreille. On peut vite aller dans une direction, imposer une direction. On a besoin de personnes qui soient sensibles à l'esprit, qui conduisent les pages blanches de nos réunions, que le Saint-Esprit a déjà prévu. Et la dispersion a un effet, des fois, est un grand ennemi dans les réunions de prière. Certaines prières brisent l'élan de la prière communautaire. Vous n'attendiez pas à ça ce matin. Hein. Il nous faut faire la guerre aux prières longues, aux longues prières qui peuvent asphyxier nos réunions. Il vaut mieux prier 10 fois courtement que de prier 1 ou 2 fois 5 minutes. Et deuxième chose, faisons la guerre aux prières tribunes, comme je les appelle. Les prières tribunes, vous savez ce que c'est? C'est un nom que j'ai donné. C'est-à-dire que je prends la prière comme objet pour faire passer mes idées. Oh, vous avez... Ou bien j'ai compris quelque chose sur le texte biblique. On est en pleine réunion de prière, j'ai envie de le partager. Ben, je vais utiliser la prière pour ça. Mais la prière s'adresse à Dieu, pas aux autres. Si j'ai quelque chose à partager, on fait ça à la fin, ou on arrête la réunion et on le partage. Il y a trop de personnes qui utilisent la prière pour faire passer un message. Et c'est ce que j'appelle ça des prières tribunes, pour expliquer une pensée qu'on vient de réaliser, ou pour enseigner les frères et sœurs de quelque chose. La prière est prise en otage. Quand on prie, on s'adresse à Dieu. Que les baptisés dans l'Esprit chantent en langue. Que tous ceux qui sont baptisés dans l'Esprit s'associent au chant en langue. C'est dommage que certains s'abstiennent. Et dans les moments d'adoration, c'est vrai qu'on pourrait se dire « Mais bon, il ne faut pas chanter en langue quand on a des réunions, parce que ça va choquer les non-chrétiens. » Non, je pense qu'en effet, si on fait toute la réunion avec des chants en langue, oui. Mais s'il y a des moments d'adoration, des moments de louange, où il y a le chant en langue, alors on peut laisser l'Esprit prendre le dessus. Et à ce moment-là, que ceux qui ont reçu ce don l'exercent, tout simplement. Il n'y a pas besoin d'attendre. Il n'y a pas besoin d'attendre que certains donnent le signal. Non, c'est l'Esprit qui donne le signal. C'est quand on sent, bah, on y va. Et il ne faut pas avoir peur de cela. Ça ne va, vous savez, ça ne va pas choquer les non-chrétiens. Vous savez, les non-chrétiens, on voudrait faire des cultes, des fois, pour eux. Avec une belle louange, un beau message, trois blagues et tout ce qu'il faut pour attirer un bon public. Mais vous savez, le monde, il fait ça 10 fois mieux que nous. S'ils veulent aller au théâtre, bien rigoler, il y a tout ce qu'il faut dans le monde. Ce qu'ils cherchent, c'est la présence de Dieu. Et on va tout faire pour que la présence de Dieu se manifeste. Et Dieu nous a donné les dons spirituels, il nous a donné des choses, pratiquons-les. Mais, comme l'apôtre Paul le dit, avec ordre et bienséance. Et attention au débordement, mais pratiquons-les. Prenons cette parole. Là, je vais avancer parce que le temps avance et je ne vais pas vous dire les autres tips. Il y en a trop. J'aimerais terminer vraiment avec ce verset que j'aimerais vous laisser. Pour terminer, que le Dieu de la patience et de la consolation vous donne d'avoir une même pensée, les uns à l'égard des autres selon le Christ Jésus, afin que d'un commun accord, on pourrait dire d'un même cœur, d'une seule voix, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est ce que nous voulons vivre, c'est notre objectif, que dans ce lieu, Dieu soit glorifié. Et ça, c'est qu'en cherchant sa face ensemble que nous y arriverons, c'est qu'en marchant pour lui et en nous débarrassant de ce que le Saint-Esprit nous montre, comme dans cette église de Agadès qui ont passé un cap, qui le Saint-Esprit fait son œuvre dans nos vies, dans les profondeurs. Mais nous avons besoin d'aller dans cette direction et c'est ce que nous souhaitons en tant qu'église vivre ici. Amen. Je vous invite à la prière. Seigneur, merci pour ta parole, merci pour ton esprit. Merci parce que tu ne nous as pas laissés orphelins. Tu ne nous as pas abandonnés. Merci pour cette ère, cette dispensation de l'Église. Seigneur, nous plions le genou devant toi. Nous te demandons de venir nous transformer, de devenir nous changer. Nous voulons aller plus loin dans ces temps de prière communautaire. Nous voulons aller plus loin individuellement. Nous voulons aller là où tu veux nous amener. Seigneur, nous disons oui et amen à tes projets. Nous te remercions parce que tu es déterminé pour ton Église. Tu as tout donné et nous voulons l'être aussi comme toi tu l'es pour nous. Alors Seigneur, merci de venir changer nos cœurs, de donner la patience pour continuer sur ce chemin de la prière communautaire, de venir continuer à nous unir pour avoir une même pensée, pour avoir un même cœur, pour avoir une même voix, pour te glorifier et pour que tes signes et tes prodiges touchent ceux qui seront autour de nous, pour que le miracle ait lieu, que les gens soient touchés parce qu'ils voient Jésus dans cette communauté et ils ne voient plus des hommes qui se réunissent pour faire une association, mais ils voient se manifester le corps de Christ, l'Église de Christ. Amen.